nos consciences devenues ainsi supérieures. Tout ce que l'on veut faire comme travail lorsque l'on se positionne en bas est très difficile à exécuter, parce que l'homme n'a que son petit feu à disposition. Mais s'il cultive avant tout ce feu pour le faire devenir grand, à ce moment-là, il accomplit toutes les choses d'en bas avec la puissance d'en haut. Et la chose se fait. Que l'homme soit cru ou pas cru, la chose se fait et il ne se trouve jamais entamé. Au contraire, il se multiplie. Lorsque l'on est un groupe, donc, la façon de travailler qui puisse le plus attirer l'énergie sans en gaspiller une quelconque quantité, la meilleure façon de travailler, c'est donc avant tout dans le silence et dans la tempérance. Il ne peut pas y avoir de réel service s'il n'y a pas tempérance. La tempérance vis-à-vis de l'idéal est absolument nécessaire. Elle est le point d'équilibre grâce auquel l'individu va pouvoir ouvrir ses énergies sans aucune blessure sur le monde. Pourquoi est-ce que la tempérance est nécessaire? Elle est nécessaire aussi parce que elle permet à l'énergie mentale d'être toujours focalisée sur la notion juste et exacte de chaque principe de la vérité, de chaque action que l'homme va devoir faire pour servir, et de chaque réaction qu'auront les autres hommes qui auront été servis. La tempérance est donc le seul moyen par lequel un individu peut parfaitement purifier sa substance mentale. Et là, j'entre dans une autre dimension du service dont il faut parler pour pouvoir aller plus loin. Clarté, pureté de la substance mentale. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'un individu qui ne possède pas une substance mentale suffisamment dépouillée des impressions astrales, cet individu-là va être dépendant des à-coups de l'ardeur, des à-coups de l'inspiration qu'envoie l'idéal, des à-coups de la bonne humeur qui va le porter un jour à servir et puis le lendemain, plus. Ce qui veut dire que le disciple ne représente pas un sol stable sur lequel le maître va pouvoir véritablement descendre, s'appuyer pour prendre équilibre et véritablement instaurer tout un processus de service. Le disciple qui représente une sorte de sable mouvant ne peut pas être un point fixe de réception pour l'énergie du maître. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'énergie du maître va le détruire. Même si le maître voulait rendre service à ce disciple et qu'il se dise, bon, c'est vrai, celui-ci est instable. Il ne comprend pas encore vraiment ce qu'est l'idéal, ni ce qu'est la puissance du service. Mais il a un tel bon cœur, une telle ardeur, que je vais quand même essayer de l'utiliser, je vais envoyer une énergie. Eh bien, au contraire de faire du bien au disciple, le maître nuirait au disciple. Tout simplement parce que l'énergie qui vient, même si le maître essaye de l'envoyer comme étant la plus légère possible, l'énergie qui vient est tellement puissante que si le disciple n'est pas bien équilibré, bien aligné, avec un mental suffisamment puissant et réceptif, donc avec un corps astral purifié, l'énergie qui vient va complètement brûler ces corps subtils. Donc, que fait le maître dans ce cas-là? Dans ce cas-là, le maître envoie tout simplement des ondes mentales, comme un peu on enverrait des ondes radio. C'est-à-dire qu'il utilise les moyens de transport que représente la masse éthérique de la planète. Et dans cette masse éthérique, il fait descendre un certain nombre de ses idées, un certain nombre de ses points de méditation qu'il espère être reçus par les hommes pour accomplir l'évolution. Ces points, ces idées, ces points de méditation qui sont envoyés dans la part éthérique de la planète restent là un peu comme des cerfs-volants qui planeraient pendant des âges et des âges. Et lorsque les hommes passent sur la Terre, qu'ils s'incarnent, qu'ils vivent, qu'ils se posent des questions, qu'ils commencent un petit peu à s'ouvrir, ils reçoivent l'ombre de ces cerfs-volants et se disent « Tiens, si je faisais ça, ce serait très bien. Tiens, si maintenant on s'intéressait à ça, ce serait très bien. » Mais il n'y a pas véritablement une entité au bout. Il y a simplement une idée qui est envoyée comme un cerf-volant pour planer jusqu'à usure complète de l'énergie qui est déposée dedans, pour planer autour de la Terre jusqu'à ce que les hommes, petit à petit, un par un, aient fini par se sensibiliser à cette énergie. Et c'est ainsi que petit à petit, complètement couvés et entourés par cette matrice, les hommes, petit à petit, décident de certaines mutations, de certains nouveaux centres d'intérêt. Et c'est comme cela que petit à petit, on a découvert l'écologie, le retour à l'alimentation saine, ou bien le retour à une méthode de médecine beaucoup plus saine. Et il n'est pas besoin d'être un très grand disciple pour recevoir cela. N'importe quel profane peut recevoir cela parce que l'idée est là, elle plane et elle est une matrice qui va petit à petit impressionner les hommes, impressionner leur subconscient, impressionner leur substance mentale. Et un jour, l'homme finit par s'intéresser à autre chose. « Tiens, je n'ai plus envie de médicaments, je vais aller voir un acupuncteur. » Et petit à petit, les idées progressent, les idées s'infiltrent et un homme nouveau, en apparence, apparaît. Et l'homme ne s'est jamais douté qu'en fait, il n'a fait que recevoir des idées qui étaient posées dans l'éthérique de la Terre et qui petit à petit envoyaient leur énergie pour faire bouger les hommes. Donc, il y a cette inspiration-là, qui est une inspiration qui couvre la Terre tout entière et qui concerne absolument tout le monde, parce que tout simplement l'énergie est accessible pour tout le monde et sans aucun danger. Et puis il y a un autre type de communication ou d'inspiration qui concerne plus particulièrement le disciple et qui ne passe plus par la matrice générale qui est autour de la planète Terre, mais qui passe par sa propre âme. Et c'est là où une nécessité absolue se lève et fait barrage si elle n'est pas acquise. C'est la nécessité d'avoir créé un certain lien, un certain pont avec sa propre âme. Cela veut dire quoi? Eh bien, cela veut dire que dans la mesure où un individu n'a pas, grâce aux incarnations, créé de lien avec sa propre âme, il ne pourra pas avoir une quelconque relation avec un quelconque être dans le cosmos ou ailleurs. Tout simplement parce que l'âme est elle-même la porte de la communication, que ce soit une communication qui fonctionne par intuition, inspiration, vision ou quoi que ce soit d'autre. C'est l'âme qui en est la porte. Donc, lorsqu'un disciple veut travailler pour le monde, il faut qu'il ait souci de développer ou de parfaire la relation avec son âme. En rentrant en relation avec son âme, en créant ce pont que l'on appelle l'antakarana, il se trouve par là même lié à toutes les autres formes de vie possibles qu'il aura besoin de contacter ou qui éprouveront le besoin de le contacter. Tant que ce pont n'est pas créé, l'individu ne pourra rentrer en communication qu'avec cette masse d'informations dont j'ai parlé et qui couvre et qui nourrit l'inspiration pour le développement des hommes. Mais ce n'est pas le meilleur moyen d'être en relation. Pourquoi ? Parce que tout simplement ce mode état d'ombrement, ce mode d'inspiration, va devoir travailler avant tout au niveau du subconscient et de l'inconscient de l'humanité. Ce qui fait qu'avant que le disciple en soit véritablement conscient, il va se passer un temps qui peut parfois être très long. Il vaut mieux qu'il devienne donc conscient de lui-même, et ainsi il va devenir par la même conscient de tout ce qui est attendu de lui et de l'humanité. Donc il va agir beaucoup plus vite. Comment développe-t-on ce centre de communication? C'est très simple. Il y a à l'intérieur du cœur, au fond même du chakra, lorsque l'on creuse pour atteindre les derniers pétales, le dernier pétale, le cœur même, il y a tout au fond du chakra un tout petit point, un tout petit trou minuscule qui équivaut à un grain de sel. Et c'est ce petit point-là dont parlait Jésus quand il disait que pour entrer dans le ciel, il ne faut être chargé de rien du tout, car la porte est extrêmement étroite. Et c'est pour cela qu'il disait que un chameau arriverait beaucoup plus facilement à passer par le chat d'une aiguille plutôt qu'un homme arriverait chargé de toutes ses identifications, ses projections et ses désirs à passer cette porte pour aller au ciel. Jésus ne parlait pas simplement de quelque chose qui a à voir avec la purification de l'âme, la purification des pensées, la purification des désirs. Bien sûr, toutes ces choses existent et sont nécessaires, mais il parlait en même temps de quelque chose qui est bien physique et qui existe réellement. Ce petit point, ce petit passage, existe véritablement et il faut le prendre pour sortir de la matière et entrer en communication avec le cosmos, que ce soit par la méditation, que ce soit par un autre moyen. C'est pourquoi il faut absolument être dépouillé de tout le système d'identification, de projection, de désir, d'ardeur et de tout ce qui est mouvement astral, même si apparemment cela se justifie parce que c'est spirituel. Parce que si l'on est envahi par toutes ces notions-là, la conscience de l'individu ne peut pas se rétrécir suffisamment pour passer par cette petite porte qui se trouve dans le cœur. Quelle est cette petite porte et pourquoi cette petite porte existe? Cette petite porte existe non pas pour représenter à un moment donné du chemin une épreuve, une initiation, pour voir si le disciple est suffisamment dépouillé de tout ce qu'il a rencontré sur la terre. Cette petite porte existe telle qu'elle est, tout simplement parce qu'elle est l'expression même de la nature de l'âme et de la conscience supérieure. Cette porte-là ne s'est pas improvisée de cette manière-là pour constituer une épreuve vis-à-vis des êtres qui viennent de la matière. Cette porte-là existe parce que l'âme elle-même existe de cette manière-là. Et qu'elle reste derrière. Elle reste dans son temple. Tout ce que l'on voit alors percé de cette petite porte, c'est le rayonnement. Et c'est ce qui a lieu lorsque l'on considère le type de vie qui anime le corps et la personnalité. On s'aperçoit que ce n'est que le rayonnement de l'âme qui maintient tant bien que mal la relation et l'animation des chakras. Si on fait le mouvement inverse, si au lieu de contempler l'âme qui descend, on essaye de monter vers l'âme, eh bien on s'aperçoit qu'il va falloir devenir semblable à l'âme elle-même. Il va falloir se rendre semblable à l'âme qui se trouve donc derrière la porte. Et qui dit se rendre semblable à l'âme, dit nécessairement se dépouiller de tout ce qui n'est pas l'âme, se dépouiller de tout ce qui est identification, projection, désir, ardeur, rêve, imagerie, etc. De cette manière-là, de l'autre côté du seuil, l'homme, déjà, se rend semblable à l'âme, ce qui fait qu'il ne devient qu'une lumière. Et cette lumière est rétractable. Elle peut, à la manière d'un rayon laser, prendre toutes sortes de dimensions et devenir extrêmement fine. Et à ce moment-là, elle arrive à refranchir le seuil du cœur. Une fois que cette lumière a refranchi le seuil du cœur, elle monte directement dans la tête. Et au niveau de la tête, que se passe-t-il? Comme j'ai déjà dit si souvent, mais je vais le répéter pour vous, le chakra de la tête ne représente pas véritablement un chakra. On l'appelle chakra parce que cela peut se voir au niveau de l'aura. Mais en fait, c'est une immense porte. Autant que la porte du cœur est très petite, parce qu'il faut que l'homme apprenne à redevenir l'âme telle qu'elle est de l'autre côté du seuil, autant la porte de la tête est énorme. Pourquoi? Parce que cette âme qui a appris à redevenir l'âme doit apprendre maintenant, en franchissant la porte de la tête, à devenir le cosmos tout entier. Et c'est pourquoi le chakra de la tête est le chakra le plus large et le plus ouvert. Si bien que lorsqu'un initié est parfaitement développé, on a l'impression que son chakra de la tête l'enveloppe et le recouvre tout entier en une seule et même aura. Et l'on s'aperçoit que si l'on voulait mesurer le rayonnement de ce chakra-là, on devrait prendre des mètres et des mètres pour aller éventuellement jusqu'à des kilomètres à la ronde. Pourquoi? Tout simplement parce que ce chakra est avant tout une porte. Et que lorsque cette porte est pleinement ouverte, le cosmos entier s'y précipite. Donc, pour tout disciple à l'heure actuelle, il est capital non pas de croire en Dieu, non pas de savoir ce qu'est le bien, non pas de savoir ce que sont les maîtres, les chakras, et de prévoir un joli programme pour que tout ceci soit amplement discuté, que tout ceci soit amplement apporté aux hommes. C'est très bien. C'est très bien de faire cela. Mais cela n'est pas suffisant, ni dans la vie personnelle du disciple, ni pour le rayonnement et l'efficacité qui est attendu en tant qu'activité de groupe. Il faut que chaque individu cultive son approche de cette petite porte dont j'ai parlé et qui se trouve au profond du cœur. Donc, il faut de plus en plus prendre conscience de tout le type de vie et de rayonnement qui a lieu au niveau du chakra cardiaque. Avant de méditer sur le coronal ou sur le troisième œil, ou de méditer sur les centres solaires, ou je ne sais trop où. Il faut avant tout méditer sur le centre solaire qui est en soi, parce qu'il va falloir d'abord franchir le seuil solaire qui se trouve en soi. Et l'on ne pourra franchir le seuil solaire cosmique que si l'on franchit le seuil solaire qui est en soi. Donc il faut avant tout commencer à méditer là. Ce qui ne veut pas dire que je vous ordonne de méditer sur ce centre précis. Je n'ordonne rien. Je vous parle simplement de ce qui, pour nous, nous semble être la vérité parce que nous connaissons simplement le langage des énergies et la réaction des principes. Mais vous avez le droit absolu et souverain de faire absolument comme vous le souhaitez. Je dis simplement que s'il existe un disciple qui veut admettre mon conseil, à celui-là je dis médite sur ton centre cardiaque, médite sur ce petit point qui est à l'intérieur de la fleur, vois ce petit point comme étant un point de lumière intense, fulgurante, n'essaie pas de passer la porte parce que je t'ai dit que c'était une porte, Prends conscience simplement de ce point lumineux. Médite là-dessus. Et au fur et à mesure que tu agiras dans la vie, tu t'apercevras que tu n'auras plus envie de faire telle et telle chose. Et qu'en faisant telle ou telle autre chose, tu sentiras le préjudice que cela t'apporte. Et tu essaieras de te défaire de la mauvaise habitude. Tout simplement parce que ta conscience sera tellement centralisée sur ce petit point qui est à franchir, qu'elle essaiera de rayonner un maximum dans ta vie pour te rappeler à tout moment, attention, ne fais pas cela, car en faisant cela, tu t'éloignes du centre que tu dois franchir. Dans le cœur se trouve une porte, un seuil fantastique qu'il faut absolument franchir. Et cette porte n'existe pas ailleurs. C'est ce qu'il y a de beau lorsque l'on analyse la nature du centre cardiaque. On s'aperçoit que le centre cardiaque n'est pas simplement le siège de l'amour ou de la connaissance de soi ou de la conscience de soi. C'est aussi une véritable porte. Et c'est pourquoi ce centre est placé au niveau où il se trouve. Parce que c'est en même temps l'endroit où de nombreuses énergies rentrent et ressortent. Mais ces énergies-là ont une destination purement spirituelle. Les énergies qui entrent dans le chakra cardiaque ne sont en rien destinées à la maintenance de la bienséance physique ou au renouvellement du prana. Pour ce faire, un autre centre situé plus bas a été créé. Tandis que le centre cardiaque, lui, est fait à la manière d'une coupe pour recevoir toutes les énergies spirituelles, la conscience de l'âme, la connaissance de soi. C'est une véritable coupe. Alors que le chakra d'en haut, le coronal, si on voulait le symboliser par un instrument matériel, on pourrait facilement le décrire comme étant une épée. Il y a la coupe et il y a l'épée. Par cette coupe, je reçois l'épée qui entre en moi et qui accomplit la loi, qui distribue la force, qui distribue la connaissance. Et je me rends consciente de cette connaissance, conscient de cette puissance grâce à la coupe qui est en moi. Et de cette manière-là, on comprend très bien de quelle manière, androgyne, l'homme est constitué. Les énergies que l'on appelle féminines, les énergies spirituelles qui ont donc valeur d'énergie féminine, se groupent toutes à l'intérieur du centre cardiaque. Tandis que les énergies spirituelles qui ont valeur d'énergie masculine se groupent toutes dans le centre coronal. Et c'est pourquoi à l'intérieur de l'individu, on voit à la fois l'équilibre des forces du premier rayon et du deuxième rayon nécessairement. Et ceci quel que soit le rayon de l'âme ou de la personnalité de l'individu. Les énergies réceptives se polarisent ici, les énergies émettrices se polarisent là. Si bien que je reçois par là et je distribue par là. Pourquoi est-ce que l'on rayonne depuis le centre cardiaque? Si par exemple le centre cardiaque était un centre comme le centre coronal où les énergies masculines prédominent, il ne pourrait pas rayonner. Il serait dans l'activité de réception, c'est-à-dire dans l'activité de faire canal. Mais il ne pourrait pas rayonner parce que tout simplement les choses passeraient. C'est une porte d'entrée et il faudrait découvrir une autre voie de sortie. Donc, le chakra coronal laisse passer, prend, émet la puissance, tandis que le chakra cardiaque va rayonner la puissance. Et pour rayonner, cela ne peut avoir lieu que grâce aux énergies que l'on appelle féminines. Des énergies qui sont donc, si l'on peut se rapprocher des éléments, les quatre éléments de la terre, des éléments qui se rapprochent de la nature humide des choses, comme par exemple l'eau. Et c'est pourquoi en même temps le cœur est l'endroit où l'amour en tant que compassion va pouvoir avoir lieu. Car la compassion est une sorte de transformation de l'élément feu qu'est l'amour en élément eau. La compassion est l'élément eau, la partie eau du feu qu'est l'amour. Alors que dans le chakra coronal, il n'y a pas moyen de construire quoi que ce soit d'aquatique. C'est du feu, un point, c'est tout. C'est l'ordre, c'est la loi. Et cela passe tel que c'est. Donc, lorsque l'on regarde dans l'alignement des chakras de quelle manière sont distribuées les énergies, on s'aperçoit que cela suit exactement les éléments tels qu'ils sont conçus sur la planète ou dans le cosmos. Il y a en premier lieu le feu. Le feu est dans la tête. Il y a ensuite l'eau. L'eau est dans le cœur. Il y a ensuite l'air. L'air se trouve dans tout le bas-ventre. C'est le souffle des émotions, par exemple. Et il y a ensuite la terre. Et la terre représente tout ce qu'il y a au niveau du centre sexuel, que ce soit l'appétit des plaisirs physiques ou l'appétit de la personnalité. Et ainsi de suite, l'élément unique qui est le feu, et qui est le feu cosmique, celui-là, en se transformant, crée des chakras, mais en créant ces chakras dans l'homme, crée aussi des éléments sur la terre. Et selon le type de chakra grâce auquel l'individu est conscient, il va être par là même en relation directe avec l'élément correspondant sur la terre. Un individu qui n'est par exemple conscient qu'au niveau de son chakra sexuel, parce que c'est une âme très jeune, cet individu-là va être très en relation et en correspondance avec tout l'élément terre de la planète, avec tous les appétits, mais aussi avec tout ce qui va avoir lieu dans la nature. Il va être, par exemple, capable de savoir quand est-ce qu'un orage arrive. Il va savoir comment tuer un animal. Il va savoir à quel endroit il y a de l'eau, etc. Quand est-ce que le volcan gronde? Alors qu'un homme qui commence à se décentraliser de ce chakra-là et monte, par exemple, dans le plexus solaire, celui-là ne comprend plus très bien le langage de la nature, mais il comprend très bien le langage des émotions. Et il commence à souffler dans tous les sens. Et comme c'est un souffle chaud, puisque c'est un souffle qui vient du feu, alors il se brûle dans le monde des émotions. Puis il comprend, il monte, et il se met au niveau du chakra cardiaque. Mais comme chaque chakra est composé en quelque sorte de trois niveaux, un niveau inférieur, un niveau intermédiaire qui n'est pas un niveau d'expérience, qui est simplement un lien entre l'inférieur et le supérieur. Comme chaque chakra donc est construit selon trois niveaux, lorsque l'individu arrive au niveau du chakra cardiaque, on pourrait croire qu'il est arrivé à un certain niveau d'évolution. Cependant, il faut savoir que il faut pouvoir pénétrer à l'intérieur du chakra. Il ne suffit pas d'y être arrivé, il faut pénétrer pour en atteindre la partie supérieure. C'est pourquoi énormément de gens ont un chakra cardiaque réveillé et on ne comprend pas pourquoi ils sont capables de faire autant d'erreurs que ce qu'ils font, pourquoi ils n'ont pas le sens de la vérité sans la tâche de l'illusion, du mirage, de l'ardeur ou de la dévotion. C'est tout simplement parce que, certes, ils sont montés jusqu'au niveau du chakra cardiaque, mais ils en sont à la première partie, à la partie la plus aquatique. Donc, ils sont 10 fois plus émotionnels que les gens qui sont situés dans le plexus solaire. Les personnes qui sont situées dans le plexus solaire sont aussi très émotionnelles, mais Cela est vécu avec un tel égoïsme, avec un tel égocentrisme, que la personne, en fait, ne souffre pas véritablement. La personne va être plutôt portée à exploiter les autres. Mais elle ne sera jamais dupée par les autres. Alors que l'individu qui se dégage quelque peu du plexus pour commencer à vivre au niveau du chakra cardiaque, celui-là va faire tout l'inverse. Il ne va plus chercher à exploiter les autres, exploiter le corps de l'autre ou l'affection de l'autre, quoi que ce soit à partir de l'autre, parce que tout simplement l'amour commence à vibrer en lui, mais il n'est pas suffisamment connaissant de sa propre nature et de la nature humaine pour ne pas être dupe, si bien qu'il lui semble être un océan de tendresse, un océan d'amour qui se fait toujours piétiner par les autres, qui se fait toujours avoir, qui se fait toujours exploiter, toujours tromper. Et la personne finit par dire « Oui, je suis bonne, mais je suis tellement bête aussi à côté de ça, je suis tellement naïve. » Non, tu n'es pas naïf. Absolument pas. Sache tout simplement que tu es dans la première étape du chakra cardiaque et que tu rencontres cet océan d'amour, mais que tu ne sais pas encore suffisamment bien ni ce qu'est l'amour, ni ce que sont les hommes, pour ne pas être toi-même la victime de l'amour qui est en train de se concevoir en toi lentement comme un fœtus. Donc plutôt que de te méfier des autres, plutôt que de te protéger, essaye de monter tes énergies jusque dans la partie supérieure du chakra cardiaque. Et à partir de ce moment-là, tu verras que, en plus de ta grande capacité à aimer, tu vas être capable d'une formidable intelligence. C'est comme si d'un seul coup, tu avais en même temps le sens de la justice. Mais tu ne seras pas quelqu'un qui juge et qui dira « Celui-là ne me regarde que pour m'exploiter, alors je ne lui parle pas. » Ce n'est pas cela le sens de la justice. Le sens de la justice sera de savoir à qui tu as affaire, de quelle manière vient vers toi l'individu, de lui donner tout ce que tu as de la même façon que si tu ignorais sa nature. Mais tu lui donnes tout ce que tu as en adaptant ce que tu as à lui donner, de telle manière que si tu acceptes de te sacrifier, ce soit en pleine connaissance de ton sacrifice. De cette façon-là, tu ne subis pas l'exploitation que commet l'autre sur toi. C'est toi-même qui te donne à l'autre en pleine acceptation, en pleine connaissance. Personne ne se trouve dupé de cette manière-là. Si l'autre a l'impression de t'avoir possédé, ce n'est qu'une illusion qui traverse son esprit. Toi, tu sais très bien que tu as accepté, tu savais que ça allait se passer comme ça, tu savais que tout allait se dérouler de cette manière. Donc tu n'es pas dupe, tu as simplement ouvert tes mains et tu as laissé manger celui que tu voulais laisser manger. Tandis que si tu ne sais pas qui est l'autre et que tu donnes tout ce que tu as et que l'autre te dévore, automatiquement, au bout d'un certain moment, tu vas dire « j'en ai assez, je suis dévorée, sans arrêt, sans que personne ne me donne quoi que ce soit en retour. J'en ai assez d'être exploitée, j'en ai assez d'avoir tout sur le dos. » À partir de ce moment-là, tu subis la fin de l'autre, tu subis ce dont il avait besoin et qu'il a pris. Tu n'as pas été quelqu'un qui a offert, contrairement à ce que tu crois. Tu n'as pas été quelqu'un qui a offert. Tu étais quelqu'un qui était simplement ouvert et qui n'avait pas pris précaution de savoir comment cela devait être donné. Et l'autre, voyant le magasin ouvert, a tout emporté. Et quand tu rentres et que tu vois le magasin vide, tu te dis « ce n'est pas possible. » C'est plus de la distribution de bienfaits, ce n'est plus du partage, c'est du véritable vol. J'en ai assez maintenant. C'est comme cela que tu vas réagir. Alors que ce qu'il faut que tu fasses, c'est savoir qui va venir dans ton magasin. Avoir la porte ouverte, grande ouverte, comme lorsque tu étais plein d'ardeur et plein d'illusions. Mais tu dois rester derrière ton comptoir et tu dois surveiller, poser des questions, savoir ce dont l'autre a besoin, connaître son appétit et lui dire, eh bien pour toi, j'ai ça. Maintenant, tu peux partir. Et s'il part la chose, s'il prend la chose et qu'il part sans te laisser quoi que ce soit, tu sais qu'il n'avait rien à te donner en retour. Donc, tu ne te sens pas exploité. Tu ne subis pas les hommes. Donc, lorsque l'on veut véritablement être efficace, mais lorsque l'on veut aussi créer en soi une telle recharge d'énergie, de manière à ce que l'on puisse travailler pendant des millénaires sans jamais se fatiguer ou se désillusionner, il faut que l'homme construise la connaissance de lui-même et arrive à acquérir la connaissance de ce que sont les autres. Au fur et à mesure que cela a lieu, dans son chakra cardiaque, le passage se fait du plan inférieur où il y a trop d'amour, tous azimuts, sans véritable connaissance, au plan supérieur où il y a la sagesse. Dès qu'il y a la sagesse, l'homme sait de quelle manière il doit servir. Donc, cultive cette sagesse. Comment fait-on ? Est-ce que tu vas aller lire dans des livres ? Est-ce que tu vas t'isoler dans une montagne pour méditer jusqu'à ce que tu reçoives l'illumination ? Pas du tout. Tu dois simplement apprendre, comme je viens de te l'expliquer, apprendre chaque instant, durant tous les événements possibles. Tu dois apprendre à toujours vivre les choses depuis l'intérieur. Ne pas te mettre sur le wagon, sur le train de l'ardeur et partir à toute vitesse dans l'extériorisation sans savoir ce que tu vas rencontrer et où tu vas aboutir. Si tu aboutis contre un mur, que va-t-il se passer? Ta locomotive va exploser, tes wagons dérailler, tu seras blessé et il te faudra énormément de temps pour t'acheter une nouvelle locomotive et remettre les wagons sur les rails. Sache ce que tu fais. Et pour savoir ce que tu fais, cultive en toi ce calme spirituel. De quelle manière est-ce que on le cultive ? En méditant sur cet axe de force dont j'ai parlé, qui se trouve dans le chakra cardiaque. En pensant à ce pont dont j'ai parlé, qui relie l'inférieur au supérieur. Et en espérant que, au fur et à mesure de tes méditations, au fur et à mesure de ce calme que tu vas cultiver, de cette tempérance qui va s'installer, tu puisses complètement basculer dans l'aspect supérieur du chakra. Et à ce moment-là, prépare-toi à monter en flèche comme un rayon laser extrêmement puissant et prépare-toi à passer par la porte du coronal pour te trouver dans le cosmos. C'est la destination normale et naturelle de tous les hommes. Que faut-il faire alors ? Il faut cultiver le calme. Chaque fois que tu sens une ardeur quelconque t'envahir, il faut tout de suite que tu respires, que tu te recentralises dans ton chakra cardiaque et que tu penses à la tempérance. Pour cela, tu peux utiliser une multitude de symboles. On arrive très bien à calmer des énergies en utilisant des symboles. Par exemple, on peut très bien cultiver la tempérance en positionnant dans le chakra cardiaque une belle fleur avec de larges pétales couleur bleu roi. Un beau bleu, bien profond. C'est le bleu de la tempérance, le bleu de la paix, le bleu du calme le plus profond. Donc, dès que je sens une ardeur quelconque en moi, dès que je sens que je vais faire une chose, non plus simplement par la joie de le faire, mais par l'ardeur. L'ardeur qui est significative donc d'une projection d'une imagerie mentale, donc forcément d'une illusion, d'un mirage. Si je veux calmer cette ardeur, je ne dois pas simplement la juguler, je dois aussi apporter une énergie de remplacement qui, elle, va s'exprimer de la manière juste. Donc je respire pour calmer cette énergie d'ardeur et je positionne sur mon chakra cardiaque cette belle fleur aux larges pétales couleur bleu roi qui immédiatement tempère ma personne et me permet de vivre la chose avec un calme, donc une efficacité absolue. Il est très difficile d'arriver à obtenir la tempérance de la part des disciples. Si bien que sur la terre, même s'il existe de nombreux aspirants, on ne peut pas véritablement accomplir un travail. Tout simplement parce que les aspirants sont enflammés par l'ardeur de servir Dieu, l'ardeur de servir les hommes, l'ardeur de bâtir un centre ou de bâtir quelque chose ou de promulguer une vérité. Ils sont envahis par cette ardeur et ils ne représentent pas un point fixe, un point vide dans lequel va pouvoir descendre ce que Dieu ou ce que le Maître voudrait qu'il soit véritablement proclamé. Il faut pouvoir créer ce vide intérieur de façon à être rempli par ce que le Maître a prévu. Donc de nombreux disciples existent sur la terre, c'est certain. Mais ils font tellement de bruit avec leur ardeur, leur imagination, leur projection, leur désir, qu'ils ne sont pas du tout manipulables ni exploitables par la hiérarchie. Alors, cela fait beaucoup de gâchis. Tant de personnes que l'on pourrait utiliser et si peu sur lesquelles on puisse véritablement planter, poser une colonne. Parce que si l'on pose une colonne sur certains, ils font tellement de mouvements et de gesticulations que la colonne s'écroule. Alors, il faut non seulement divulguer la parole de Dieu aux hommes. Il faut non seulement parler de Dieu aux hommes, mais si vous voulez faire un travail efficace qui serve véritablement au dessein d'évolution, travaillez aussi à construire des disciples, des vrais disciples, trempés dans les reins, des disciples qui soient fixes comme des statues, vides comme des Bouddhas illuminés. Afin qu'ils puissent recueillir la parole de Dieu, recueillir la part d'action qui est réclamée, et que plein de cette puissance et plein de cette inspiration, ils puissent alors, avec le plus grand calme et la plus grande efficacité, aller dans le monde, écraser les obstacles ou accepter le sacrifice pour que l'évolution ait lieu. Former des disciples. Avant même d'instruire les gens à propos de ce qu'est Dieu, à propos de ce que sont les chakras, les corps subtils, les différents plans du cosmos, former des disciples, sensibiliser les gens à cette tempérance, à la nécessité absolue de ne plus rêver, de ne plus projeter une quelconque ardeur, de ne plus créer un quelconque bruit dans l'aura. Mais d'installer au contraire le calme, la puissance, la réceptivité. Et à partir de ce moment-là, l'union que vous avez peut-être envisagée avec d'autres groupes ou que vous pensiez comme pouvant amener quelque chose de bon pour les hommes, cette union-là, vous ne la chercherez plus, vous ne l'imaginerez plus. Parce que ce ne sont pas des unions horizontales qu'il faut favoriser. Les unions horizontales peuvent à tout moment basculer, pour les raisons que j'ai décrites. Mais c'est une union verticale qu'il faut réaliser. Et si chaque groupe crée une union verticale avec le maître, avec le dessin de la hiérarchie, ou avec Shambhala, imaginez tout ce que vous voulez. Si chaque groupe crée cette union verticale, c'est à ce moment-là que la réunion horizontale aura lieu. Avant, elle ne peut pas avoir lieu. C'est impossible. Si les hommes ne sont pas conscients de ce qui est en haut, ils ne pourront pas s'entendre avec les éléments et le plan de travail qui est en bas. Chacun verra la chose à sa manière. Alors que si l'on fait une réunion avec le haut, l'individu alors sera adombré par une seule et même vision, car il n'y a pas 36 manières de voir la chose en vérité. Chacun se trouvant donc par la même adombré, il ne sera pas nécessaire de se réunir, car tout le monde sera réuni dans le temple planétaire. Et chacun à ce moment-là articulera la vérité telle qu'elle est conçue dans le temple planétaire. Ne cherchez aucune alliance sur le plan horizontal. Cela peut aller très bien au début et finir très très mal. Cherchez l'alliance sur le plan vertical. Et quand vous parlez avec d'autres groupes, sensibilisez le groupe à cela. Sensibilisez aussi les hommes à cela. Aujourd'hui, on parle sans cesse de désarmement, de la paix qui doit enfin venir entre les peuples. C'est très bien de parler de la paix, mais c'est complètement illusoire, c'est complètement utopique. Aucun homme ne peut s'entendre avec un autre homme s'il cherche une alliance horizontale. Impossible, car sur le terrain de la vie pratique et concrète, ils vont diverger.